VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 7 mars 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a expliqué hier la politique américaine envers l'Afrique avant son départ pour sa première tournée sur le continent.
En Côte d'Ivoire, la gendarmerie de Bahia Crow incendiée hier au cours d'une émeute de lycéens.
Élections présidentielles, législatives et communales aujourd'hui en Sierra Leone.
Le président américain Donald Trump a jugé très positives les déclarations nord-coréennes sur un éventuel dialogue avec les États-Unis.
Appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour la réouverture immédiate des couloirs d'accès aux convois humanitaires en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a prononcé mardi à Washington un discours sur la politique africaine des États-Unis juste avant d'entamer sa première tournée sur le continent. Abdourahman Dia.
Dans son discours hier à l'université George Mason près de Washington, Rex Tillerson a déclaré que la sécurité des États-Unis et sa prospérité étaient plus que jamais liées à l'Afrique. Il a déclaré que les États-Unis étaient engagés à construire une relation forte avec le continent et il a accusé la Chine d'encourager la dépendance dans son approche africaine. Le secrétaire d'État américain assure que l'administration Trump veut collaborer avec les pays africains pour résoudre les conflits et bâtir des institutions fortes. Il a annoncé que Washington allait allouer 533 millions de dollars supplémentaires pour combattre la faim en Éthiopie, dans le bassin du lac Tchad, en Somalie et au Soudan du Sud. Sa tournée d'une semaine dans 5 pays africains sera centrée sur la lutte contre le terrorisme, la promotion de la paix, la bonne gouvernance, le commerce et les investissements. Il se rendra en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya, en Angola, au Tchad et au Nigeria. Sa visite en Éthiopie coïncidera avec le passage à Addis Abeba de son homologue russe, Sergueï Lavrov.
En République démocratique du Congo, des centaines de personnes se sont réunies hier à la paroisse Saint-Benoît de Kinshasa, où le militant Rossi Mukendi a été tué il y a 10 jours. C'était pour une messe en sa mémoire, qui a pris les allures d'une réunion politique selon une journaliste de l'AFP. Outre les membres de sa famille, des militants, des hommes politiques et de simples citoyens ont pris part à cette messe alors que des casques bleus étaient visibles aux abords du lieu. Rossi Mukendi, 35 ans, initiateur du mouvement collectif 2016, a été tué par balle le 25 février dans la répression de la marche organisée en RDC contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. La police l'avait qualifié de fauteur de troubles avant d'annoncer l'arrestation du policier responsable de sa mort.
En Côte d'Ivoire, la gendarmerie de Mbaya Crow, dans le centre du pays, a été incendiée hier au cours d'une émeute de lycéens. Après le meurtre d'une jeune élève, les lycéens sont sortis pour réclamer la justice. Le point avec Raissa Girondin.
Suite à l'assassinat la veille d'une jeune fille au lycée de Mbaya Crow, les élèves de ce lycée ont quitté les cours pour paralyser la ville et saccager la gendarmerie nationale. Lundi, le corps de Glaou Edmond Chanceline, 14 ans, élève en classe de 5e, a été découvert, égorgé et vidé de son sang. Les lycéens sont sortis pour réclamer justice et reprochent aux gendarmes leur inaction. Ils exigent l'ouverture d'une enquête afin qu'on puisse mettre aux arrêts le ou les auteurs de ce crime. Déjà, le 17 février dernier, un gendarme et un civil ont été tués dans une émeute similaire à Blolequin, dans l'ouest ivoirien. Les résidences du préfet, du sous-préfet et de la gendarmerie ont été saccagées par la population en colère.
Les Sierra Leonais se rendent aux urnes aujourd'hui pour les scrutins présidentiels, législatifs et communaux. Les forces en présence avec Morgan Guériec.
Du côté du parti au pouvoir, le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne peut pas se représenter ayant déjà effectué ses 2 mandats. C'est donc Samora Camara, ancien ministre des Affaires étrangères, qui représentera l'APC. En face, Julius Mada Bio, ancien général, leader de la SLPP, principale formation d'opposition. Bio a brièvement été chef de l'État en 1996 après un coup d'État. Il a perdu l'élection de 2012 face à Koroma. Samora Camara et Julius Madabio sont les mieux placés pour la présidence. Leur parti domine la politique sierra-léonaise depuis les années 60, mais cette année, un nouveau parti pourrait peser dans la balance, le NGC, qui a attiré des électeurs des deux camps. Dirigé par Kande Yumkela, ancien fonctionnaire des Nations Unies, le NGC a galvanisé les jeunes en leur promettant éducation et développement. Pour remporter la présidence, un candidat a besoin de 55% des votes. Comme il y a 16 candidats, de nombreux analystes estiment qu'il faudra un second tour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a salué mardi les signes d'ouverture de la Corée du Nord concernant un éventuel dialogue avec les États-Unis, tout en appelant à la prudence et en réaffirmant que toutes les options sont sur la table. Le point avec Jean-Roger Bion.
La présidence sud-coréenne a indiqué que Pyongyang est prêt à un dialogue franc avec les États-Unis et suspendrait tout essai nucléaire ou de missiles pendant la durée des discussions. Chang Yu-yong, conseiller du président sud-coréen Moon Jae-in, s'est longuement entretenu lundi avec Kim Jong-un à Pyongyang. Les dirigeants des deux Corées se retrouveront fin avril pour un sommet historique dans la zone démilitarisée. Le locataire de la Maison-Blanche a jugé que ces déclarations étaient très positives, mais nous verrons ce qui va se passer. Pour la première fois depuis des années, un effort sérieux est fait par toutes les parties concernées. Le monde regarde et attend, a lancé Donald Trump dans un tweet matinal. Visé par une série de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le régime nord-coréen a toujours affirmé que son programme nucléaire n'était pas du tout négociable.
Le patron du renseignement américain, Dan Coats, estime que les États-Unis doivent faire plus pour décourager toute cyberattaque et tout effort de désinformation russe pendant les prochaines élections législatives aux États-Unis. Intervenant hier devant la commission sénatoriale des forces armées, M. Coats a dit que l'équipe de sécurité nationale de l'administration Trump discutait d'un vaste éventail de menaces auxquelles les États-Unis font face dans le monde. Il estime probable une nouvelle campagne de perturbation de Moscou, comme ça a été le cas pendant la présidentielle de 2016, dans une tentative continue de saper la démocratie ainsi que les valeurs des États-Unis, de l'Europe et de leurs autres alliés.
Le principal conseiller économique du président Trump a démissionné, a annoncé hier la Maison-Blanche. Le départ de Gary Cohn fait suite, fait-on remarquer, à la décision de M. Trump d'imposer des taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. Il aurait tenté, dans un effort de dernière minute, de faire changer d'avis le président américain, qui a répété hier qu'il prendra de telles mesures dans les prochains jours.
Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui en urgence et à huis clos pour débattre de l'absence de mise en œuvre du cessez-le-feu temporaire qu'il réclamait dans sa résolution du 24 février. Entre-temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé hier à la réouverture immédiate des couloirs d'accès aux convois humanitaires. Pour sa part, le régime de Bachar al-Assad a poursuivi ses frappes meurtrières contre la partie rebelle de la Ghouta orientale en Syrie, malgré la trêve quotidienne annoncée par les Russes, principaux alliés de Damas.
L'Italie a élu le premier sénateur noir de son histoire. Tony Iwobi était sous la bannière de la Ligue, le parti italien d'extrême droite anti-immigration. Des détails avec Anastasie Tudiech.
D'origine nigériane, M. Iwobi, catholique, est arrivé en Italie en 1976. Il a dirigé une entreprise informatique avant de se lancer dans la politique en 1993 au sein de la Ligue. Il avait affirmé dans une interview en 2014 avoir choisi la Ligue, à l'époque un mouvement autonomiste, en raison de la volonté de ce parti de se battre pour le fédéralisme. Le Nigeria a 36 États autonomes et confédérés. C'est un projet qui fonctionne en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnerait pas ici, avait-il estimé. Sur l'immigration, M. Iwobi a les idées claires. L'intégration est faite aussi de devoirs, pas seulement de droits, dit-il. Il était depuis 2014 responsable du dossier de l'immigration au sein de la Ligue. Les résultats officiels, et donc les noms des élus, ne seront connus que dans les prochains jours, les tribunaux devant encore trancher sur certains cas litigieux, mais M. Iwobi semble ne pas être concerné.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Le président Joseph Kabila a reporté à aujourd'hui la séance de travail avec les 7 principaux opérateurs miniers de son pays. Cette rencontre était prévue hier pour écouter leurs préoccupations sur la révision du code minier de la RDC. Le projet de réforme envisage de multiplier par 5 une taxe sur les métaux stratégiques, notamment le cobalt. Il instaure aussi une redevance avec le taux de 10%. En Angola, Isabelle Dos Santos a démenti tout détournement de fonds à la Sonangol, la compagnie pétrolière publique. La fille de l'ex-président José Eduardo Dos Santos a dit que ces accusations étaient totalement infondé. Le nouveau PDG de l'entreprise, Carlos Saturnino, avait dénoncé la mauvaise gestion et pointé du doigt des opérations douteuses. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a ravi à Bill Gates la première place du classement des milliardaires mondiaux. D'après le magazine Forbes, M. Bezos a pratiquement doublé sa fortune, qui est passée à 120 milliards de dollars. Warren Buffett a conservé sa troisième place. Le français Bernard Arnault, PDG d'un groupe de luxe LVMH, se hisse au quatrième rang des plus grandes fortunes mondiales. 2 milliardaires chinois font leur entrée. Le président américain Donald Trump a chuté de la 544e place à la 766e place. Sa fortune est estimée désormais à plus de 3 milliards de dollars, soit 400 millions de moins qu'avant son entrée à la Maison Blanche.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Real, trop fort pour Paris en Ligue des Champions.
Et oui, dans un Parc des Princes, pourtant bouillant, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi hier à renverser le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une défaite 2-1 qui s'ajoute à celle de l'aller. Paris est donc éliminé et ne verra pas les quarts de finale. C'est Cristiano Ronaldo, encore une fois décisif, qui avait ouvert le score, son 51e but en Ligue des Champions. Puis Edinson Cavani avait redonné un peu d'espoir aux Parisiens, un but partout. Mais en toute fin de match, c'est Casemiro qui a coupé les espoirs parisiens. Une défaite 2-1. À noter que Verratti avait été expulsé et les Parisiens avaient joué à 10 une bonne partie de la seconde mi-temps. Dans un match sans envie, Liverpool et Porto se sont neutralisés 0-0. Ce sont donc les Anglais qui se qualifient pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Ils l'avaient emporté 5-0 à l'aller.
Ce mercredi, deux autres clubs anglais en piste.
Finaliste la saison dernière, la Juventus Turin a concédé le match nul à l'aller contre Tottenham à domicile, 2-1 et se retrouve donc en mauvaise posture avant le match de ce soir en Angleterre, tandis que Manchester City entrevoit déjà la qualification après son large succès 4-0 face au FC Bâle à l'aller.
Sur le continent africain, les 16e de finale aller de la Ligue des Champions.
Belle victoire à l'extérieur des Township Rollers, c'est un club botswanais qui bat 2-1 les Young Africans de Tanzanie. Match nul 0-0 entre le MFM du Nigeria et le MC Alger. Et puis l'étoile du Sahel qui s'est imposé 4-2 face au plateau. Victoire à Conakry du Oroya contre Génération Foot, c'est un club sénégalais. Et puis pas facile pour les Gabonais du CF Mounana qui se sont logiquement fait laminer 4-0 par le grand Al Ahly d'Égypte au Caire.
En Coupe CAF aussi, les premiers matchs.
Victoire facile pour la Mancha, le club congolais, 3-0 face à Al Ahly Chandi du Soudan. Le Dari Club Motema Pembe accroché 1-0 face aux Équato-Guinéens du Deportivo Niéfang. Et puis match nul 0-0 entre le Petro Atlético, c'est un club angolais, face à Supersport, le club sud-africain. Large victoire de Belouizdad, le club algérien, 3-0 contre le Nkana de Zambie. Victoire également de Berkane, le club marocain, 3-0 contre le club africain. Enfin, match nul 1-0 entre le Raja Casablanca et le FC Nouadhibou, c'est un club mauritanien. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain, les résultats de la nuit.
Philadelphie et Charlotte, 128-114, Toronto et Atlanta, 106-90, Washington et Miami, 117-113, Houston et Oklahoma City, 122-112, Dallas et Denver, 118-107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la procureure Maïsa Serebe a fait hier le point sur les enquêtes au sujet de la double attaque contre l'état-major des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. 8 personnes, toutes burkinabées, dont 3 militaires, ont été interpellées. Notre correspondant sur place, Zoumana Onogo.
Des premiers éléments de l'enquête après le bilan qui fait état de 8 militaires burkinabés tués et 8 assaillants abattus, Madame le procureur du Faso a affirmé qu'il y a eu des arrestations. Maïsa Serimé, le procureur du Faso.
8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il y a des civils, il y a un ancien militaire radié et il y a 2 militaires. Les personnes interpellées en ce moment, sans rentrer trop dans les détails, sont des burkinabés. Ces personnes ont été interpellées soit aux alentours des lieux, au cours de l'instruction de l'enquête, nous sommes en train de déterminer s'ils sont complices, s'ils sont co-auteurs.
Raïm Sawadogo, médecin dentiste, se voit lui conforté dans ses doutes après la déclaration du procureur.
Depuis le départ, nous avons pensé en tout cas qu'il fallait avoir des gens infiltrés en interne pour avoir une opération aussi coordonnée. Parce que ce culot-là demande qu'il y ait quand même des informations hyper sophistiquées qui demandent vraiment qu'il y ait eu en interne des fuites. J'ai dit donc que s'il s'avère que c'est le cas, parce que ce sont des interpellations, nous sommes inquiets parce que ça nous amène à revoir tout notre système au niveau de l'armée, nos systèmes sécuritaires, la hiérarchie, etc., etc. Parce que pour moi, c'est l'attaque de trop. C'est l'attaque qui touche de par les cibles choisies.
À propos des interpellations, Yakuba Ouedraogo, un jeune commerçant, nous a dit en avoir gros sur le cœur.
J'ai eu peur de tuer les gens pour qu'il aille parler et accomplir. En plus de Burkinabé, ça fait mal, ça fait très mal.
Pour Aboubakar Sanou, consultant technique dans la téléphonie, il faut faire toute la lumière dans cette affaire d'attaque. Par rapport à cette interpellation, vraiment, nous on veut qu'il y ait vraiment de la lumière, que tout soit clair, et parce qu'on sait que c'est nous-mêmes qui nous combattons, même on a des frères qui ne savent pas jusqu'à présent qu'on a changé de couverture et il faut aller en avant. On souhaite que la lumière soit faite, le Burkinabé soit éclairé sur tous ces attentats, parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment marre.
Le procureur du Faso a réitéré son appel à témoins pour permettre à l'enquête de faire des pas significatifs. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Guinée, 8 conseillers de la Cour constitutionnelle ont déclaré non conforme à la loi le remplacement de 3 membres de l'institution. C'est en réaction au tirage au sort organisé par le président de la Cour constitutionnelle qu'ils disent avoir aussi destitué de ses fonctions de président. Yakuba Ouedraogo a joint à Conakry le juriste Karamo Madi.
Un communiqué avait été rendu public invitant l'opinion nationale à venir assister au remplacement du tiers des membres de la Cour constitutionnelle à son siège. Juste après cette cérémonie, il y a eu une plénière de la Cour constitutionnelle de 8 autres membres de la Cour constitutionnelle qui s'est tenue et qui s'est formellement opposée à la tenue de cette cérémonie de remplacement et a donc déclaré nul de nul effet le remplacement qui a eu lieu. J'estimais que le président de la Cour constitutionnelle n'aurait pas respecté les règles de procédure.
Qu'est-ce que le président de la Cour constitutionnelle a posé comme acte qui soit contraire au règlement?
La loi disposait clairement que le président de la Cour constitutionnelle avait un mandat de 9 ans non renouvelable. À part lui, les autres membres de la Cour constitutionnelle feraient l'objet d'un remplacement par tiers. Donc seul le président de la Cour constitutionnelle était habilité à faire un mandat de 9 ans. Maintenant, la divergence vient du fait que les membres de la Cour constitutionnelle avaient établi un règlement intérieur à l'intérieur duquel il avait fait été cas que lors du tirage pour le remplacement du tiers, le nom de l'ensemble des conseillers figurerait dans le book de tirage, ce qui avait été mentionné. Or, ce qui s'est passé hier a été fait exclusion faite du président de la Cour constitutionnelle. Et c'est là où donc les 8 autres conseillers ont estimé que le président a procédé à une violation de procédure parce qu'il n'a pas respecté le contenu de ce règlement intérieur et que donc il aurait fait ce remplacement de manière informelle ou en catimini dans son bureau pendant que la plénière se tenait avec les 8 autres membres. Ses compères ont estimé qu'il avait en tout état de cause violé les règles de procédure et que donc cette élection était nulle et de nul effet. Par conséquent, il procédait à la fois à son invalidation et à la révocation du président de la Cour constitutionnelle.
Finalement, les 8 membres disent que le président de la Cour constitutionnelle est destitué. Le président de la Cour constitutionnelle dit qu'il n'est pas destitué.
Tout à fait. Nous rentrons donc dans une crise institutionnelle et nous espérons que la sagesse va les habiter, d'autant plus qu'ils sont les garants de la constitution de notre pays et du bon fonctionnement des institutions, parce que quand ça brûle dans les autres institutions, elles ont recours à la Cour constitutionnelle. Si donc elles-mêmes brillent par une telle crise, on peut s'interroger sur l'étendue de la crise et les conséquences que cela peut engendrer sur le fonctionnement correct de notre État.
Le juriste Karamo Madi, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République démocratique du Congo, au sud Kivu, en vue de lutter contre les érosions répétitives et le taux élevé de déboisement à Bukavu, l'association Dignité Impact vient de lancer une série d'activités de reboisement et de sensibilisation de la population sur l'importance de l'arbre. Reportage d'Ernest Mouhiro.
Dans son approche des travaux, l'association Dignité Impact implique les jeunes, le responsable religieux et coutumier, les leaders d'opinion dans les écoles, l'administration locale et la société civile en général. Ceci pour redorer la verdure d'antan du groupement d'Irambi Katana, entaché par une coupe systématique des arbres. L'autorité administrative du groupement des Katana, le chef du groupement intérimaire Janvier Birego Katana, déplore l'état des déboisements très avancés dans son entité.
La population a coupé beaucoup d'arbres et c'est pourquoi aujourd'hui, la pluie est très basse. Nous avons un Mbeketeri vers Kabamba qui a causé de couper tous les arbres. On va accompagner Dignité Impact en sensibilisant la population.
La quarantaine des jeunes formés à la sensibilisation ont tour à tour planté des arbres au bureau de l'état civil des Katana, au poste du sous-commissariat de la police, dans des écoles et certaines parcelles et champs déboisés. Ces jeunes sont chaque fois accompagnés par les autorités locales et leaders de la société civile pendant les répiquages. Un jeune témoigne.
La première personne qui a planté l'arbre, c'est l'administrateur de notre groupement. Il nous a donné l'exemple. C'est là que nous avions commencé, nous, dans le but de prévenir les sols et d'éviter davantage les inondations et les érosions.
La coordinatrice de Dignité Impact RDC, Emmanuel Antolé, appelle la population à s'approprier l'initiative.
Notre association a un objectif d'encadrer la jeunesse. Nous demandons à toute la population de Katana d'accueillir ces jeunes et de les encourager, mais aussi de ne pas oublier à ces gestes qu'ils auront à poser en sauvegardant ou en protégeant l'arbre là que ces jeunes auront à planter dans telle ou telle autre parcelle.
Le vice-président de la société civile d'Irambi Katana, Jean-Baati Baïga, estime que l'initiative des reboisés tombe à point nommé.
Pour aujourd'hui, nous sommes trop ravis. Ici chez nous, on n'a jamais vu une organisation qui vient soit nous apprendre comment reboiser ou protéger notre environnement à travers la jeunesse, parce qu'on fait la bataille d'arbres en désordre. Nous voulons maintenant rappeler à la population de bien garder l'environnement, de planter les arbres parce que sans arbres, il n'y a pas la vie.
Au total, 3000 autres arbres pourraient être plantés, ainsi que la fabrication des briques écologiques pour réduire la pression de l'homme sur l'environnement en matière de construction au sud Kivu. Le groupement des Katana est situé à environ 45 km au nord de la ville de Bukavu. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Ici aux États-Unis, la situation reste floue pour près de 700 000 jeunes adultes bénéficiant d'un programme créé par l'ancien président Barack Obama et connu sous le nom de DACA, qui leur permet de vivre et d'étudier aux États-Unis. Ce programme a été abrogé par son successeur Donald Trump, qui avait donné au Congrès jusqu'au 5 mars, c'est-à-dire avant-hier, pour régler définitivement la question. Eh bien, John Linden a joint Sophie Raven, avocate d'immigration basée à New York.
Il n'y a pas une réponse claire en ce moment parce qu'il faut attendre de voir comment la cour d'appel va décider. Donc, entre-temps, enfin, il y a une cour en Californie qui a fait une injonction pour empêcher justement que le programme cesse le lundi le 5 mars. Et les personnes qui étaient éligibles pour justement envoyer leur demande pour de renouvellement de DACA peuvent continuer à le faire jusqu'à ce que le processus suive son cours dans les tribunaux.
On constate que les parlementaires sont très divisés sur le dossier DACA. Est-ce qu'il y a une porte de sortie qui pourrait satisfaire tout le monde?
C'est très difficile à dire parce que tout est devenu très, très politisé. Il y a un désir de justement trouver une solution pour DACA, pour toutes les personnes qui ont le statut de DACA, mais le problème c'est que le président veut absolument lier toute solution à de l'argent réservé pour construire le mur entre les États-Unis et le Mexique. Et les démocrates sont complètement opposés à cette idée. Donc, c'est à Donald Trump. S'il retire ce critère, justement, peut-être une solution pour DACA peut arriver. Mais je crois que pour l'instant, l'administration attend la décision des tribunaux. Parce qu'ils ont essayé d'éviter la cour d'appel et faire appel directement à la Cour suprême pour que la Cour suprême prenne une décision, ce qui est vraiment très irrégulier. Et la Cour suprême a refusé d'écouter justement le cas.
Vous êtes avocate, vous êtes basée à New York. Quels sont les cas que vous recevez de vos clients, notamment ceux concernés par ce DACA?
Je reçois de temps en temps des sollicitations et des questions de personnes qui ont DACA pour voir si leur DACA reste toujours valable. Mais je dois malheureusement informer ceux qui cherchent à faire une nouvelle demande de DACA qu'ils ne sont plus éligibles parce que le programme reste en suspens pour toute nouvelle demande.
Sophie Raven, avocate d'immigration, basée à New York.
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue sa première visite en Afrique avec pour escale le Tchad, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. L'occasion de faire le point sur la politique africaine de l'administration Trump. Lutte contre le terrorisme, promotion de la paix, sécurité, bonne gouvernance, commerce, investissement. Quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique? Le nouveau locataire de la Maison-Blanche va-t-il continuer la politique mise en place par ses prédécesseurs? L'isolationnisme prôné par la Maison-Blanche pourrait-il nuire aux relations entre les États-Unis et l'Afrique? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guiriec avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du secret médical et de la confidentialité du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Selon les spécialistes, cette confidentialité est nécessaire car les PVV ont besoin de sérénité et de confiance pour accepter de faire leur test et dépistage et suivre leur traitement.
Pour en parler, nous recevrons comme invité Francine Karach, infirmière aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Elle nous dira comment les hôpitaux protègent le statut sérologique des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Nous écouterons aussi le témoignage d'une personne vivant avec le VIH ainsi que de Serge Tamundele, conseiller juridique d'une organisation de personnes vivant avec le VIH.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'hab, comme d'habitude. La question de la semaine, à avoir un ou plusieurs amants. Aïe, ça va chauffer. Cette semaine sur RM Show, envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp. Mon numéro n'a pas du tout changé, c'est au 001 703 350 37 31. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct. Participez, surtout en nous écrivant, nous envoyant vos commentaires. RM Show, c'est chaque soir à 20h de l'Universel. C'est sur VOA Afrique. Peace Africa.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Thomas Blende. Merci à Anna Godson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.